Nous sommes le mercredi 25 juillet 2023. Il sonne 11h et à vous toutes et à vous tous qui êtes en place pour écouter le Club de la Presse, notre émission quotidienne de revues et de commentaires de l'actualité. Vous nous écoutez sur Canal FM à Lomé et ses environs. Vous nous écoutez également sur les ondes de Radio Courtoisie depuis Dapan, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Soukodé, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nero. Vivement que nos amis de Radio Sama FM relèvent leur pylône et que nous soyons de nouveau audibles sur leurs antennes. Et nous vous saluons également, vous qui nous écoutez de par le monde, grâce à la technologie. Radio Le Bénin, Ibn Radio ou encore toutes les autres applications que manient si habilement les techniciens Vitogbe Kokou, Michel Tomenga et Jérôme Akoucha. L'actualité aujourd'hui, c'est mercredi. Nous parlons naturellement de santé et éducation avec un spécial numéro que ce journal fait sur la santé de nos poumons. Et puis, qu'est-ce qui se passe au sein de l'INAM, l'Institut National d'Assurance Maladie? Y a-t-il quelques difficultés depuis quelque temps? Certains journaux s'y sont intéressés, nous allons en parler. Tout comme également quelques drames que nous pouvons éviter dans la circulation. Vous verrez bien de quoi il s'agit. Et puis, la filière coton qui donne l'impression de tomber de Caraïbes en Scylla. Chaque année, la production est en chute libre. Et puis ces derniers temps, c'est comme il y a également quelques remous au sein de la Fédération des producteurs du coton. Nous allons également vous faire visiter ces sujets par la revue de presse. Et si nous avons le temps, des journaux sont revenus sur des consultations que les parties prenantes du Darfour ont entretenu entre eux ici à Lomé par la facilitation du Togo. À nos côtés, Gadiel Gamelé, Tchonyadji de Santé Éducation. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
Et si je te demandais quel est le moins mince des journalistes du Togo, tu le connais? Il vient du pays Bassa.
Il vient du pays Bassa. Et il s'appelle fier d'être Bassa.
Et il s'appelle
Burahima.
Burahima Tchabore, Apoya.
Alors, ça, Apomanan.
Alafia.
Abombopoya.
Alafia.
Merci beaucoup.
Et ça... je présume que la fête traditionnelle de Pontre Nidak se prépare bien.
Proprement, ça se prépare bien, comme d'habitude d'ailleurs.
Eh bien, que dirais-tu si le Club de la Presse pouvait s'animer depuis la maison des Bonfou à Kabou?
Ça serait une très bonne nouvelle, une n'est-ce très pas? Belle initiative. D'accord, je crois qu'en hors micro, on va y réfléchir.
Non, on a commencé à parler à
voilà, voilà. Non, on va réfléchir pour pouvoir mettre les bases.
Eh bien, le Club de la Presse te charge de faciliter les consultations, les
négociations
avec les Bonfou, avec tous les grandes figures, les Agba, même si lui s'en est allé, sa maison est là, on peut animer chez Charles Bondi Agba.
Disons le grand bazar tout entier, parce que le moment, ça serait le grand bazar qui va se réunir. Mm-hmm. Donc, tous les fils du grand bazar et toutes les filles actuellement nous écoutent, que ce soit de la diaspora, que ce soit d'ici. Donc, à la sortie, je prends l'initiative de contacter ces personnes pour voir comment est-ce que le Club de la Presse peut être animé dans le Grand Bassar en septembre au moment de la fête des Ignames.
Ce qui est dit et reste seulement que ce qui est dit soit fait. Mm-hmm. Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs et autrices qui nous écoutent. Je profite pour faire mon coucou, ça fait longtemps, à mon ami, à notre ami commun.
Yamba.
Et je l'encourage dans ses œuvres de l'artisanat qu'il est en train de promouvoir par rapport au pain traditionnel.
Mm-hmm. Nous attendons un quatrième confrère qui va nous rejoindre incessamment. Mais déjà, la parole de sagesse qui va nous conduire cette émission, le sage nous apprend que nous avons deux oreilles et une bouche. Nous devons en conséquence écouter plus que nous ne parlons. Encore une fois, si nous avons deux oreilles et une seule bouche, c'est que nous devons écouter deux fois que Nous ne parlons. Bourema, c'est compris.
Non, c'est sans commentaire. Hein. C'est sans commentaire.
Merci. Eh bien, Gadiel Gameli, rebonjour.
Oui, rebonjour, Sas.
Et samedi prochain, ce sera le dernier samedi du mois de juillet. Et Santé Éducation nous rappelle que ce sera l'acte 11 des Journées Nationales du Sport. Donc, rendez-vous le 29 juillet. Et vous nous rappelez pourquoi le gouvernement a décidé de cette journée une fois par mois et les bienfaits que nous tirons du sport au quotidien.
Au Togo, d'après les données au niveau du ministère de la Santé, il y a plus de 30% de Togolais qui sont des hypertendus, 6,2% des diabétiques et au-delà de 25% en surpoids. Donc, c'est un problème. C'est réellement un problème.
De santé publique.
De santé publique. Donc, l'initiative du gouvernement, je pense que les arguments sont bien donnés par les autorités elles-mêmes. C'est pour promouvoir le sport. Le sport, c'est une activité vitale pour la vie. C'est absolument important. Donc, on peut même l'appeler un médicament, entre guillemets, parce que toutes les maladies qu'on vient de citer, le sport participe à leur traitement. C'est absolument important. Donc là, c'est vrai que ça fait le sixième acte et le onzième acte. Mais bon, on sent que dans les quartiers, il n'y a pas ébullition. Le Togo n'est pas sportif. Hein. Quand vous voyez un peu notre pays, le Togo, on circule plus à moto, à voiture. Peu sont ceux qui marchent. Hein. Et cela contribue aux maladies cardiovasculaires. Donc, c'est important d'aller au-delà de l'appel du gouvernement. Le dernier samedi du mois, c'est une symbolique. Il faut que nous participions à cette journée-là. Le prochain samedi, on va y aller. Et puis, chaque jour, que les Togolais fassent une activité physique et sportive
pendant 30 minutes. À travers cette journée nationale du sport, le dernier samedi de chaque mois, le gouvernement vise, comme Santé Éducation le rappelle, à promouvoir les activités physiques et sportives, améliorer le bien-être physique et psychologique des citoyens, également l'amélioration du bien-être des populations, la promotion du dialogue intergénérationnel. Parce qu'à cette journée du sport, il n'y a pas de petits, non. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de ministres, il n'y a pas de balayeurs de rue, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de minces, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de géants. C'est tout cet ensemble-là qui fait le sport.
Voilà, c'est une journée pour tout le monde. Donc, tout le monde doit participer pour le bien de tout chacun. C'est absolument important dans nos quartiers, dans nos maisons. En famille, papa et maman et les enfants, on peut sortir pour marcher, courir. Nos terrains périphériques doivent être remplis les samedis pour faire le sport. C'est très vital pour la santé.
Également, l'intégration sociale ainsi que la culture de vivre ensemble et dans la paix. En faisant le sport, nous minimisons certaines maladies non transmissibles, comme Gadiel en a parlé. Ces maladies causées par la sédentarité, parce qu'on est homme d'affaires, parce qu'on est autorité, parce qu'on a une moto, parce qu'on a une voiture, on ne marche plus. Même pour aller dire bonjour à son voisin à 100 mètres, on prend vélo, on prend moto, on prend voiture. Parce qu'il y a ascenseur dans l'immeuble, on ne prend plus les escaliers parce qu'on est ministre, parce qu'on est député, parce qu'on est DG, parce qu'on est riche. Voilà. Et quand on fait le sport, on sollicite le cœur, on sollicite les poumons. Il peut arriver que certains d'entre nous ressentent des sensations d'essoufflement. N'est-ce pas, Gaziel?
Absolument. L'essoufflement, c'est... un mal, un symptôme qui a des causes. Souvent, c'est des causes d'origine maladie. Donc, c'est dû à une maladie. Et dans cette parution, nous mettons plus la cause d'une atteinte du système respiratoire. Quand le système respiratoire ou bien les poumons sont atteints, cela, il y a un symptôme dont l'essoufflement. L'essoufflement, c'est une incapacité du corps de recevoir assez d'oxygène. Et quand c'est comme ça, un petit effort, la personne se sent essoufflée. C'est un signe d'alerte. La personne doit aller consulter rapidement. Là, nous proposons quand même une recette en version prévention et puis en accompagnement à tout traitement.
Les alertes, dès que vous marchez 10 minutes, vous avez des sensations d'essoufflement, dès que vous jouez avec vos enfants un peu de temps, hein, ce sont des alertes. Allez consulter. Et le reste de l'article vous informe. Autre maladie liée aux poumons, c'est les bronchites, dont vous dites que la bronchite est généralement une inflammation des bronches d'origine infectieuse, virale ou bactérienne. C'est l'une des premières causes de consultation médicale et même en pédiatrie.
Tout à fait. Chez les enfants comme chez les adultes, vous savez, on a une pression sur la poitrine, on a une difficulté respiratoire, on est essoufflé, donc tout ça là, c'est des symptômes au niveau de la bronchite. C'est une atteinte des bronches, ces canaux qui conduisent l'air vers le poumon. Et quand c'est comme ça, c'est une alerte médicale, il faut aller consulter. Il y a une prise en charge, ou bien il y a des prises en charge assez efficaces au niveau hospitalier. Et puis, ben, vous savez, il y a des recettes maison qu'on peut faire pour renforcer l'immunité parce que, comme vous venez de le dire, la bronchite est due au virus ou bien aux bactéries. Donc, pour renforcer l'immunité tout le temps à la maison, cela permet quand même d'éviter ce genre de problèmes.
Et dans les pages qui suivent, c'est toujours des articles liés aux poumons, notamment à la page 7, les signes que nous souffrons de poumons. Hein, quelles sont les alertes, les signes que nos poumons sont malades? Et puis vous continuez avec une série d'articles que vous recommandez justement pour la santé de nos poumons.
Les alertes au niveau d'un poumon qui est malade. Très souvent, quand vous vous sentez, vous êtes essoufflé, donc vous respirez mal, il y a la fièvre. Des fois, il y a des gens qui font des crachats avec du sang. Plusieurs d'autres symptômes au niveau des poumons, bien des poumons qui sont atteints. C'est absolument important de lire cet article et d'aller consulter quand on sent ce genre de signe. Il se pourrait que ce soit des poumons qui soient atteints. Bon, maintenant, il y a des prises en charge au niveau hospitalier qu'on peut donner rapidement. Le plus tôt sera le mieux. Quand on sent des symptômes, il faut aller consulter.
Merci, Gadiel. Mais il y a toujours sur les poumons, il y a deux choses à dire. La bonne santé du poumon passe également par le fait de ne pas fumer, la cigarette ou bien le tabac. Maintenant, il y a quelque chose que les vieux faisaient au village et qui devient maintenant une mode à Lomé. C'est ce qu'on appelle chez nous Asran. C'est du tabac écrasé en poudre que les gens aspirent directement par les narines. Et cela va directement dans les poumons, n'est-ce pas, Gadiel?
Bon, c'est une pratique assez risquée quand même. Mm-hmm. En tout cas, nous, on ne va pas conseiller cela à tout le monde.
Non, c'est pour justement quelque chose à déconseiller. Oui, fumée d'abord, et puis le tabac prisé, comme on l'appelle.
Oui, je pense que ce sont des pratiques qu'il faut bien comprendre avant de le faire. Ça peut amener à un certain nombre de problèmes. Maintenant, dans cette parution, nous mettons quand même en exergue les aliments qui renforcent la santé des poumons. 12 aliments que nous connaissons chez nous ici, il faut consommer pour renforcer la santé des poumons.
12 aliments que nous connaissons, mais qu'on découvrira ou bien qu'on redécouvrira avec beaucoup de plaisir dans les colonnes de santé éducation. Mais Gadia, tu restes avec nous sur le coup de 12 heures. Les auditeurs pourraient appeler sur le 22 21 33 74. Ou le 91 36 63 75 pour en savoir davantage. Coucou Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Sassé, bonjour à tous.
Merci, toujours de la santé. Nous continuons avec l'Institut national d'assurance maladie. Le sujet avait été soulevé ici par le confrère Jacques Diakouti lundi. J'avais dit que c'était réel, mais que nous entamions des contacts avec l'INAM pour en savoir davantage, en attendant d'avoir les personnes ressources de l'INAM lui-même. Je suis tombé sur deux articles de vos journaux. Le messager d'abord, Bouraïman, tu nous parles de l'INAM. L'INAM qui vit une situation de retard de paiement des factures à l'endroit de certaines cliniques, de certains hôpitaux et de certaines officines de pharmacie qui disent suspendre le tiers payant de l'INAM à partir du 1er août prochain, dans quelques heures. Eh bien, le messager écrit que la direction générale de l'INAM rassure les assurés et les partenaires. Si j'ai fait article presque similaire de la manchette qui parle lui aussi de retard de paiement des factures, l'INAM également qui rassure ses partenaires que des dispositions sont prises pour un retour à la normale. Mais vraiment, à l'INAM, on est conscient qu'il y a un problème actuellement.
Voilà, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous vivez une situation, vous vous rendez compte qu'effectivement qu'il y a un problème. Et cela permet quand même de sauter, de savoir comment faire pour trouver les solutions à ces problèmes. Et je pense que c'est la démarche de l'INAM. Lorsque la situation s'est présentée, c'est depuis quelques mois, je ne vais pas décrire, peut-être que vous en avez déjà parlé hier. Je crois que hier, il y a une note qui est sortie, une note de la direction générale de l'INAM pour rassurer les assurés. Et la population tout entière, et en plus des partenaires, parce que il faut le dire, l'INAM, c'est un institut qui a été préconisé quand même pour venir en aide à la population. Et vous savez, depuis un certain temps, l'INAM a joué son rôle comme il le faut. Et c'est tout à fait normal que les pharmacies qui attendent percevoir de l'argent pour pouvoir équiper leurs installations ne trouvent pas, c'est tout à fait normal qu'elles manifestent leur mécontentement. Et c'est ce que j'ai dit, la démarche, c'est que l'INAM a répondu favorablement, a écouté et a fait sortir une note hier pour rassurer ses partenaires, pour dire que d'ici le 28 juillet prochain, donc disons dans deux jours pratiquement,
vendredi.
Voilà, donc ce sont 10% de ce que l'INAM doit à partir de janvier à juin sera payé aux pharmacies pour que les pharmacies puissent reprendre le travail. C'est-à-dire que puisse suspendre la menace qui planait, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et je pense que c'est une bonne initiative. On espère que ce qui a été pris comme décision va être mis en œuvre pour rassurer la population. Donc voilà ce qu'il en est exactement, c'est vrai. Vous avez dit qu'il faut revoir les personnes ressources. Vous avez vu qu'il y a une note qui circule depuis hier. Donc c'est une manière pour l'INAM quand même de rassurer les partenaires.
Donc l'INAM prend l'engagement de verser 70% de ce qu'elle doit à ses partenaires de janvier 2023 à juin 2023.
Et ça serait fait dans deux jours.
Ok, on verra bien ce qu'il en sera. Mais Sylvestre Béni, puisque l'INAM reconnaît qu'il y a un problème de retard de paiement, à quoi justement est dû ce retard que l'INAM accuse vis-à-vis de ses partenaires?
Non, tu l'as si bien dit, et c'est ça aussi l'essentiel, parce que l'INAM reconnaît qui est un souci. C'est ce qui est d'ailleurs important. Et il a déploré les désagréments que cela a pu causer donc aux prestataires. Lorsque vous allez aux nouvelles, il est dit que en fait c'est pour un changement donc de méthode de gestion des règlements. Donc c'est ce qui a occasionné cela. En réalité, il n'y a aucun problème de trésorerie. Bon, certains auraient pensé que l'INAM est en cessation de paiement, qu'il y a un problème de trésorerie. En réalité, il en est...
Selon la direction.
Lorsque vous lisez le communiqué, selon la direction, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, l'INAM rassure que déjà, à partir de vendredi, tout sera payé, donc les 70%, comme vous venez de le dire. Donc, on espère que cela sera effectif déjà et à partir de vendredi. Et donc, l'INAM, si vous voyez même le communiqué, ils ont pris des dispositions que de tels désagréments ne se reproduisent. Donc, voilà, c'est ça, en fait, l'expérience. Ils ont vu ce que ça a donné. Puisque lorsque vous allez dans certaines pharmacies, ils ne les voient pas toutes les pharmacies, les centres de santé. Il y a certains, du fait, donc, de ce retard, ont également cessé, donc, des prestations vis-à-vis des assurés. Maintenant que tout va se décanter, donc, à partir de vendredi, on espère que bon.
Bien, merci pour faire le point. Voilà. Oui, il y a un problème de retard
justement,
de paiement entre l'INAM et ses partenaires. Problème que l'INAM explique par un changement de méthode dans la gestion de règlement des prestataires de soins conventionnés.
Voilà.
Deux, l'INAM prend l'engagement de verser d'ici vendredi 28 juillet 70% de ce qu'il doit à ses partenaires.
Bon, on peut dire il aussi, puisque c'est un institut.
Ok.
Voilà.
Justement. Eh bien, nous verrons si l'INAM tient sa parole le vendredi 28 juillet et quelle sera donc la réponse hein, de ses partenaires qui sont les centres de santé publique et privés et également les officines de pharmacie. Oui, Gadiel?
Les confrères ont déjà dit l'essentiel. C'est une situation qui arrive très souvent au niveau d'un système d'assurance, de petits retards. Bon, maintenant que la direction de l'UNAM assure, puisque dans la population, il y avait un peu de panique. Alors, les gens avaient dit que l'UNAM est tombé, qu'il n'y a pas des moyens pour soutenir encore l'assurance. Bon, il n'en est de rien. Donc, je pense que les choses vont reprendre. Et c'est assez important quand même qu'au niveau de l'UNAM et des partenaires, que cette attente demeure, cette confiance demeure pour que on n'aille pas, les assurés n'aillent pas au niveau des officines et qu'on leur dise que, bon, parce que l'UNAM n'a pas payé, on ne peut pas vous servir. Après tout, ce système est institué par l'État pour permettre aux populations de ne pas avoir peur des ordonnances. C'est l'objectif. Mm-hmm. Donc, c'est assez important de surveiller cela et les partenaires l'UNAM pour que de telles situations ne se reproduisent plus forcément.
Merci. L'UNAM qui est opérationnel depuis 2012. Avec ses prestations, et je prends acte hein, que même s'ils ne sont pas, même s'ils ne sont pas encore venus au club de la presse, déjà le lundi, il y a le confrère Togo Matin qui avait fait un papier sur le sujet. Et puis hier, la direction de l'UNAM a sorti cette note officielle que vos journaux exploitent et que nous commentons. Abba Tshisaka, ça veut dire que il est toujours important que les autorités soient les premières à communiquer hein, sur leur gestion quotidienne, aussi bien ce qui marche que les petits soucis du terrain.
Oui, effectivement. Je pense que c'est ce problème de communication-là qui anime beaucoup les institutions de la République. On ne veut pas communiquer. Parce que le problème se posait depuis, il fallait sortir une note et expliquer aux gens que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Mais on a attendu que c'est au niveau des médias qu'on évoque le problème avant de sortir une note et d'explication. Mm-hmm. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on est en train d'avancer vers l'assurance maladie universelle. Qui va s'en occuper? Si ces genres de petits problèmes-là se posent au niveau de l'INAM et qu'on veut étendre l'assurance maladie à toute la population, on risque d'avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, ce que moi j'ai dit, s'il y a un petit problème et que vous êtes en connaissance de ça, au niveau de l'institution, par exemple l'INAM, ce n'est pas aujourd'hui que cette affaire-là a commencé, où ils ont des problèmes avec les pharmacies, parce que quand les patients vont pour présenter les ordonnances au niveau des pharmacies, ils ont des difficultés, on ne leur donne pas. On dit que l'INAM n'a pas payé, donc les autres ne vont pas donner les produits. Donc, depuis ce temps-là, l'INAM devait nous donner une explication par rapport à ça.
Notamment ce qu'ils appellent le changement de méthode dans la gestion de règlement des prestataires, ça aurait dû faire l'objet d'une information à l'endroit des partenaires, à l'endroit du public. Ouais. On n'en serait pas.
On n'en serait pas à ce niveau-là, parce que quand on veut changer de méthode de gestion, il faut aussi donner des explications, il faut communiquer. Il faut dire voilà ce que nous voulons faire désormais pour éviter un certain nombre de problèmes à l'avenir. Mais on ne le fait pas, on le fait en silence. Or, quand on le fait en silence,
c'est quand on est rattrapé par
le problème qu'on sort un communiqué pour expliquer.
Merci. Alors, dans sa note, la direction de l'UNAM dit qu'elle n'a pas de problème de trésorerie. Oui. Nous en prenons acte. Oui. Sauf que l'UNAM a commencé avec les agents du public, les fonctionnaires, les retraités, avec le paiement qui est fait à la source. Mais progressivement, l'INAM s'ouvre à d'autres corps de métier. Alors, est-ce que les autres aussi arrivent à honorer leur engagement vis-à-vis de l'INAM? On sait qu'il y a un corps des journalistes, il y a un corps d'artisans, il y a un corps de ceci et de cela. Est-ce que tous ces abonnés à l'INAM paient également à temps échu
Non, je crois que ces problèmes, ça doit exister. Hein. Il y a le confrère.
Ça existe.
Il y a le confrère Gadiel qui vient de dire quelque chose. Dans ces genres d'assurance, il y a toujours, dans ces genres de situations, il y a toujours des problèmes et qu'il faut savoir les gérer. C'est la manière de gérer qui est le problème. Comme vous venez de le dire, ça, je crois qu'actuellement, il y a plusieurs qui n'ont pas pu honorer leur engagement vis-à-vis de l'INAM. Mais l'INAM fait quand même un effort pour le faire. Il y a le confrère Abbas Issaka qui a dit quelque chose de très important et je voudrais qu'on appuie là-dessus. Il y a un grand homme qui disait que il faut devancer les événements et non courir après les événements.
C'est un négro.
Justement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, on dit encore, vaut mieux tard que jamais.
Oui.
C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, l'UNAM nous a rassurés par rapport à la situation et on en prend acte. Que les assurés soient rassurés, c'est très important. La population, parce qu'il y avait une inquiétude grandissante au sein de la population. Et moi, je dis que le fait que l'UNAM ait pris soin, même si c'est trop tard, de communiquer là-dessus, c'est une bonne chose. Mais il faut également donner raison aux pharmacies qui refusent de pouvoir, je l'ai dit tantôt, il faut leur donner raison parce qu'il faudrait les moyens financiers pour pouvoir approvisionner les produits. Donc aujourd'hui, ils sont dans leur produit. Et ce qui est encore intéressant, l'INAM, dans son truc, a dit qu'il comprend également l'inquiétude des pharmacies. Donc je pense qu'en tout et pour tout, il y a eu une compréhension qui s'est installée par rapport à la note qui est sortie et que désormais, l'INAM dit qu'il prend acte pour que ces genres de problèmes ne puissent pas se reproduire.
Quand donc, on est sincère et qu'on parle un langage vrai, on se comprend, n'est-ce pas?
C'est clair.
Voilà. Maintenant, il y a des drames qui se produisent au quotidien sur nos routes, des drames que nous pouvons tout simplement éviter si nous avions un peu plus de bon sens. Revue de presse avec le journal du Togo qui, à la page 6, écrit « Un vrai danger ». Les tricycles bagages sont théoriquement réservés au transport des marchandises, mais les conducteurs de ces tricycles n'hésitent pas à prendre des passagers, phénomène dangereux, strictement illégal et qui endeuille, qui cause des drames ici et là. Emmanuel Libéré, à base ton journal écrit aussi, transport illégal et dangereux des passagers, la récréation est terminée.
Ouais. Je pense que
allons en classe.
Il faut qu'on aille en classe et que ces conducteurs de tricycle-là puissent être mis en ordre. Vous allez voir un tricycle qui prend les marchandises. En dehors des marchandises, il y a aussi des passagers, des personnes qui sont assis sur ces marchandises.
Surcharge.
Et en surcharge. Et ils passent et c'est des gens-là qui roulent sans permis même. Ils ne se contrôlent, ils ne contrôlent rien. Lorsqu'ils veulent même engager dans la route, c'est tout comme ils n'ont pas de frais ou bien ils ont la priorité. Donc, et ils avancent directement sur vous. Des gens qui transportent des planches, qui le cachent complètement. Et ils traversent toute la ville avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites au niveau du ministère de la Sécurité. Mm-hmm. Des mesures qui sont en train d'être prises pour réglementer ce secteur. Parce que quand ça a commencé, les gens là, ils se considèrent soit comme des motos ou soit comme des voitures. Parce que le gabarit, en sorte le gabarit d'une voiture, la moto est souvent quand ils veulent vous dépasser de faire un dépassement, ils font comme c'est une moto, ils font un dépassement dangereux qui risque de provoquer des accidents.
En somme, au ministère de la Sécurité,
on veut siffler la fin de cette bagaille là,
sauf à base, sauf qu'en la matière, le ministère de la Sécurité, de la Protection Civile parle beaucoup mais fait peu. C'est ce ministère qui nous a annoncé le permis A pour les motos. Vous rappelez?
Oui.
C'est ce même ministère qui a annoncé l'alcotest pour s'assurer que les gens ne prennent pas le guidon de leur moto ou le volant de leur voiture en état d'ébriété. Ça ne se fait pas.
Oui.
Alors, quelle garantie le ministère de la Sécurité nous donne maintenant qu'on va sévir contre les tricycles qui chargent passagers et bagages?
Mais il faudrait attirer la bonne foi de ce ministère et la volonté d'en parce qu'on a l'habitude de prendre de bonnes lois ici, qu'on n'exécute pas.
Voilà.
Il y a beaucoup de choses qu'on a faites pour réglementer des situations. Mais deux ou trois mois après, ça disparaît. On ne suit pas. Il n'y a pas un suivi.
Et on attend, le prochain drame pour aller faire une communication au Conseil des ministres
pour dire
et
que
puis on retombe,
on
encore.
Retombe dans les mêmes travers. Donc aujourd'hui, il faudrait que quand le ministère, les ministères ou bien les institutions de la République prennent des engagements, il faut les suivre et les faire exécuter en tant que tel. Sinon, on est en train d'aller dans une pagaille totale, surtout avec ces gens de tricycles-là qui inondent. Aujourd'hui, ils sont devenus beaucoup plus nombreux. Il y a deux genres de tricycles. Il y a les tricycles qui sont là au niveau de l'échangeur d'Agoué. Ça, c'est.
Il n'y a pas d'échangeur à Gouët.
Le pont.
Bon, le pont,
grand pont de, le grand pont
le contournement.
Le contournement d'Agouët.
Donc, c'est là. Vous les voyez là. Ils aussi transportent les personnes.
Oui.
Des fois, tu les vois aussi mettre les bagages en haut de leur, sur le toit de leur moto.
Oui.
Mais les plus dangereux sont ceux-là dont nous sommes en train de parler, qui, lorsque vous allez même dans nos localités les plus reculées, les samedis, dimanche...
Dans les campagnes. Ah, sur nos marchés.
Les samedis, dimanche, au marché, dans les marchés, là, on prend les gens, on
vous toute prend la semaine, pourquoi
on prend les marchandises.
On prend les marchandises, on entasse les gens.
Et les passagers sont en haut.
Enfin, sur les marchandises.
Sur les marchandises.
Et de l'autre, il y a des gens qui vont en funérailles. C'est eux-là qui vous allez les voir en tenue de... en uniforme, et ils sont en train de chanter, danser dans les tricycles. Donc, moi, j'ai plusieurs fois vu ça. C'est ça qui m'a amené à faire ce truc.
Alors, Souleyma, nous avons interpellé le ministre de la Sécurité, hein, parce que beaucoup d'annonces qui sont fort judicieuses, mais qui n'entrent pas en vigueur, ce qui n'est pas bien. Mais de l'autre côté, nous parlons en tant que citoyens. Nous, qui surchargeons les tricycles, aussi bien les conducteurs que nous les passagers. Nous qui montons dans les tricycles, jonchés sur les bagages, en situation de surcharge, est-ce que nous sommes toujours conscients des risques que nous prenons pour nous-mêmes?
Ça, je dirais, on ne parle même pas en tant que citoyen, on parle en tant qu'être humain qui a besoin d'une certaine sécurité. Et qui dit sécurité, dit les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas se blesser, pour ne pas faire un accident, ou bien pour ne pas conduire autrui à faire un accident. Donc, nous sommes des êtres humains et on a besoin de se protéger. Mais ce que vous dites, lorsque nous voyons des tricycles qui sont là, et nous-mêmes, non seulement les tricycles sont surchargés, et nous-mêmes, on prend le risque de monter sur ces tricycles et on les conduit, je crois que nous mettons notre vie en danger. Moi, je vais rebondir sur quelque chose que Abbas venait de dire tout à l'heure, qui est très important. C'est vrai, on peut accuser le ministère, les autorités en charge de la sécurité, hein, de ne pas mettre en pratique. Je veux qu'on revienne un peu, hein, qu'on fasse un peu une pensée sur l'arrivée des immigrants dans notre pays. Lorsque c'était arrivé, les gens boudaient par rapport à ce que les immigrants causaient comme accident. Mais lorsque ce ministère avait tenté, je dis tenté, de pouvoir arrêter, nous avions été les mêmes qui nous sommes soulevés pour dire non, au moins ces personnes sont des jeunes, certains qui sortent de l'école et qui arrivent au moins à gagner leur, à obtenir leur gagne-pain à travers ce métier. Pourquoi ne pas l'organiser? Effectivement, les autorités ont compris et ont organisé aujourd'hui le phénomène des immigrants. Moi, je pense que c'est de la même manière qu'il faut comprendre la chose. Ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'on veut peut-être accuser le ministère de la sécurité, ce n'est pas facile. Parce que lorsque le ministère prend sur lui, en charge de prendre une décision aujourd'hui pour dire on interdit l'usage des tricycles, nous serons également les premiers à nous soulever pour dire non. Au fait, ces tricycles servent à quelque chose. Maintenant, le mieux, c'est que ensemble, qu'on puisse voir comment organiser ces tricycles et lui dire. Je ne dis pas.
Tu as lâché le mot.
Voilà.
C'est organisé.
Justement. Mais il y a également d'autres drames qui se jouent au quotidien et qui sont quand même évitables.
C'est la catastrophe. Moi, je suis sur la route chaque fois.
Oui, je sais.
Si vous, je suis sur la route.
Mais je voudrais qu'on parle des tricycles.
Quand vous voyez des tricycles. Non, je n'ai pas des tricycles.
Tu as déjà dit. Hein, que le ministère et la bonne volonté aident le secteur à s'organiser et on aura évité beaucoup de choses. Mais d'autres drames également qui se jouent et dont les victimes sont ces pauvres. Hein, ce n'est pas une insulte, hein, ces pauvres hommes et dames qui essaient de balayer nos rues. Aujourd'hui, c'est la manchette qui nous en parle. Sylvain, tu dis balayeur de rue, des décès et silence de l'État.
Oui. Oui, je crois que ça revient, je vais encore vous emprunter le mot, ça rejoint à une question d'organisation. Puisque, vous voyez, ces balayeuses de rue, en réalité, la plupart ou la majorité, c'est des femmes du troisième âge et tout. Mais les heures de travail, et je me dis, ma foi, ne convient véritablement pas. Puisque, on peut pas demander à ces pauvres dames, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, d'aller balayer la voie à des heures donc de forte densité de la circulation. Où on met juste quelques cônes là, et ça même des outils de protection, c'est-à-dire des cache-nez et tout ça, parfois même ça, même des casques, hein, ces dames-là, parfois des bébés au dos, mm-hmm. hein, qui balaient la voie et tout, et vite, les accidents arrivent, hein, en début, donc, du mois, il y a encore un véhicule qui a ramassé 4 personnes au niveau, donc, du lycée technique d'Aïdo Gomé, mais malheureusement, une n'a pas survécu à ses blessures, il y a 3 dames et un monsieur. Voyez-vous? Et bien avant ça, il y a encore un autre véhicule 4x4 qui a véritablement projeté une dame au sol au niveau de GTA et elle est morte sur le coup. Voyez-vous? Donc il faut des heures, hein, des heures qui permettent donc à ces dames-là de faire leur travail en toute sécurité. Mais si c'est à des heures de pointe où elles aussi viennent pointer avec quelques cônes et tout ça, mais vite. On le souhaite, mais l'accident arrive très facilement. Donc, il faut organiser sur cette heure-là, je l'ai dit. Il faut organiser sur cette heure-là. Mais qui doit le faire? Je ne sais pas si c'est les
communes.
C'est les communes.
Le balayage des rues,
justement, relève de nos communes. Justement, les communes. Parce que la dernière fois, quand l'accident est arrivé donc au niveau d'Aïdo Gomé, j'ai appris que la commune de Golf 7, aujourd'hui, quand elle veut balayer, on prend et on bloque une voie. Hein, on bloque une voie. Et donc, quand elle finit de balayer, donc on ouvre la voie et on bloque l'autre. Mais si on peut le faire ainsi, c'est bien. Mais peut-être qu'ils vont le faire 2 ou 3 jours et après on revient à la seule formule. Mais est-ce que c'est à des heures de pointe qu'il faut bloquer une voie pour balayer? C'est ça.
Le problème, voilà. C'est que nos rues ne sont pas éclairées. On ne peut pas non plus demander à cette dame-là de venir bailler à 3h, 4h dans l'obscurité avec les outils rudimentaires qu'ils ont.
Normalement, je crois que la meilleure formule, ce serait donc... À l'aube, c'était très tôt dans la matinée ou tard dans la soirée, c'est-à-dire la nuit. Oui. Mais voilà que tu poses également le problème d'éclairage. Vous prenez donc la nouvelle voie donc d'Aïdo Gomé où les lampadaires fonctionnent comme des guirlandes. C'est-à-dire que oui c'est cela. C'est ça, ça s'allume ici après 2 mètres, s'éteint de l'autre côté et là vous marchez comme ça dans la nuit.
C'est pour cela que nous demandons que sur la grande voie de qui a été faite maintenant à Dogomé jusqu'à aller à Zangera. Là. Oui. Il faudrait que la lumière soit totalement éclairée.
Combien de fois devons-nous le dire?
On a dit. Parce que moi, je vois, lorsque tu rentres là, tu vas voir la nuit. Comme on dit, de quel n'a qu'à aller la nuit. Déjà, aux environs de 20h, 22, 21h, là, elle reste là-bas. Mais les balueuses, ils prennent le soin de mettre une lumière pour signaler qu'ils sont ici. Parce que quand tu arrives au niveau du lycée d'Aïdo Gomé, en allant, très souvent, il n'y a pas d'éclairage. Mais elles sont obligées de balayer la nuit, comme on le dit toujours. Il faut se faire signaler par une barrière avec quelqu'un qui est à côté de là, en train de faire la torche pour signaler qu'il y a des gens qui sont en train de...
Maintenant, le plus grave,
c'est dangereux.
Le plus grave, c'est que ces bonnes femmes et autres ne sont pas assurées. Je pense que c'est un point qu'il faut se lever. Et la plupart du temps, ce sont des sociétés à qui les communes font appel pour venir.
C'est un ASAP.
Oui, et ce sont ces sociétés qui recrutent ces bonnes femmes et qui laissent ces bonnes femmes à la merci d'une telle situation.
Et des salaires dérisoires aussi.
Et avec un salaire dérisoire. Je pense que c'est important. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est bien que le confrère soit venu là-dessus. Je pense qu'il faut continuer quand même par interpeller les maires et autres pour voir dans quel cadre il faut faire en sorte que les femmes là, parce que ce que les gens ne savent pas, au même moment, les femmes là causent des accidents, ceux qui occasionnent ces accidents peuvent être poursuivis, et même ceux dont les véhicules et autres là sont endommagés pour poursuivre et la société et la bonne dame. Parce que nous sommes dans un pays de droit, on est en train d'évoluer. Donc je pense qu'il faut voir le problème de cette manière. Il faut que cette dame, désormais, vous voyez, avec cette situation où on a besoin de quelque chose pour survivre, les bonnes dames se laissent aller à la merci de n'importe quelle promesse. Et on vous dit, venez avec un salaire dérisoire, vous allez balayer, vous mettez votre vie en danger. Et je pense que nous-mêmes, on venait de le dire, on revient là-dessus. Nous-mêmes, lorsque nous voulons être recrutés dans ces genres de sociétés, il faut quand même qu'on prenne soin
de pouvoir d'exiger un certain nombre de choses. Je l'ai dit, c'est vrai. C'est un peu difficile.
C'est la situation.
C'est difficile.
Une pauvre dame qui n'a rien de bien pas de
elle
a rien de faire.
Mais la situation.
Par rapport à la situation, on va les mettre notre vie en danger. La question reste posée aussi.
Merci, merci. Nous allons continuer avec un autre secteur qui est une potentialité, mais qui est malade. Et dont la maladie s'aggrave d'année en année, c'est la production cotonnière. Suivez les chiffres. Et tel que Liberté en parle aujourd'hui, la page 3, production cotonnière au Togo en 2023, 46 549 tonnes en 2023. Alors remontons un peu. Saison 2018-2019, le Togo produisait 137 000 tonnes. 2018-2019, on produisait 137 000 tonnes. Une saison plus tard, de 137 000, on est tombé à 117 000. Ouais. Une saison plus tard, nous tombons à 66 000 tonnes.
Ouais.
Et 2021-2022, 52 528 tonnes.
Ouais.
Et maintenant, pour la saison 2023, 46 549 tonnes.
Ouais.
Donc, de 137 000 en 2018, nous tombons à 46 000 tonnes 5 ans plus tard. Or, vous vous rappelez, quand nous étions à 137 000 tonnes, le gouvernement se projetait déjà à 225 000 tonnes en 2025. Et c'est pour ça qu'on nous a dit qu'on a privatisé la société, la nouvelle société cotonnière à Olam. Et voilà, on a privatisé. Et voilà les résultats 5 ans plus tard. Bouraïma.
Mais je crois que c'est inquiétant. C'est inquiétant et il faudrait fouiller pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle situation. Parce qu'en réalité, dans nos productions, on cherche à évoluer, comme vous venez de le dire.
La vie en général, on évolue. Général,
donc, les prévisions, c'était à plus de 200 000 tonnes. Mais aujourd'hui, on est à
46 000.
À 46, c'est-à-dire qu'en dessous de la moitié de ce qu'on produit, de ce qu'on avait prévu, de 100 000 tonnes qu'on avait prévu,
On devait aller à 225 000 en 2025.
Voilà.
Et maintenant, en 2023, nous sommes à 46 000 tonnes.
Quand même, il y a un problème. Je pense qu'il faut chercher qu'est-ce qui est à la base de ce problème. Est-ce que ce sont les moyens qu'on doit mettre à la disposition des producteurs qui manquent, ou bien ce sont des producteurs qui fuient quand même le secteur? Le problème, je ne sais pas ce que le confrère a eu à relever comme situation, mais aujourd'hui, le coton, ça représente quelque chose pour le pays et nous en avons besoin. Alors, les plus hautes autorités devraient en réalité se pencher sur le cas et savoir qu'est-ce qu'il en est, évidemment. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, il y a un petit problème au niveau de la direction de la SRP, de cette situation de la direction
La fédération.
De la fédération.
Justement, nous allons y venir.
Justement, donc, je crois qu'il y a un problème sérieux. Au-delà de tout, du fait qu'on estime que les producteurs, peut-être, ne s'adonnent plus au secteur, je crois qu'il y a un autre problème sérieux qu'il faudrait chercher à savoir quel est le problème. Et qui doit chercher à savoir où est le problème, c'est l'État.
Notamment le ministère de l'Agriculture.
Justement, le ministère de l'Agriculture. C'est le ministère de l'Agriculture qui doit savoir quel est le problème.
Merci. Seulement la production chute d'année en année, je rappelle qu'il y a 5 ans, nous produisions 137 000 tonnes et aujourd'hui nous en sommes à 46 000 tonnes. Vous verrez le niveau auquel on a chuté. En plus de ça, au sein même de la Fédération des producteurs, est-ce qu'il y a problème? Bouraïma l'évoquait tantôt et Sylvestre Béni, ton journal en parle comme d'autres aussi, filière coton Togo. Pas de crise à la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton. Président Koussoué Kourofey, qui dit qu'il n'y a pas de problème. Il pense déjà relancer la production pour la saison prochaine. Et avec l'ambition d'aller à 93 000 tonnes. Mais il y a problème parce qu'il semble que tout est parti de deux agents sanctionnés par le conseil d'administration, mais qui sont toujours en poste.
Oui, en réalité, c'est bien ça. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir juste quelques mots sur la filière coton. Je crois que ce que le confrère... nous sommes toujours dans la filière coton, heureusement. Ce que le confrère Liberté a écrit, c'est bien vrai, puisque nous l'avons souligné il y a quelques mois. Et figurez-vous que même l'année dernière, il y a quelques mois, lorsque la filière a chuté à 52 000 tonnes, il y a même eu une compression donc, du personnel. On a demandé à certains gens, ils sont plus de 48, à quitter volontairement, parce que ça veut dire qu'il y a un souci. Voyez-vous, il y a un souci. Donc, lorsque vous partez donc, de 137 000 tonnes en 2017 à 46 000 tonnes donc,
cinq ans plus tard,
ça veut dire que l'État, et nous l'avions dit à l'époque, il faudrait que l'État puisse regarder. Dans ce secteur-là, c'est vrai que c'est Olam qui est aujourd'hui la seule majorité avec 51% donc, des parts. Mais le gouvernement garde également une bonne portion. Et donc, il revient donc à l'État d'aller voir du côté donc de cette filière, ou du moins de cette société, ce qui se passe. Puisqu'on ne peut pas prendre donc des étrangers pour venir nous aider à remonter donc là-bas, et c'est eux qui viennent plutôt nous aider à descendre. Un peu comme l'a fait Claude Leroy. Vous voyez ? Donc, il faudrait véritablement que... Et au niveau donc de ce secteur-là, que l'État soit...
Donc, en plus de ça, au sein même de la fédération des groupements même, qu'est-ce qu'il y a comme problème?
Justement, le problème qui se pose à ce niveau, c'est vrai qu'il y a un souci, puisque le président lui-même, le président de PCIA que nous avons eu lui-même, il le dit. Bon, il y a deux agents qui ont été affectés, et donc qui doivent aller, il y a l'un qui doit donc devenir chef comptable donc, dans la région des plateaux, et puis l'autre qui doit devenir également conseiller et technique dans la région de la Cara, je crois. Mm-hmm. Donc, les deux doivent partir. Mais le PCI a dit qu'ils sont revenus lors donc, d'une assemblée générale sur le sujet parce qu'ils doivent donc lancer un appel à candidature en vue donc, de remplacer ces personnes-là.
Et donc, mais cela aurait dû être fait en amont, avant d'affecter
les agents. Et donc, comme ils ne trouvent pas pour l'instant des candidats, donc ils préfèrent qu'ils jouent un peu donc, de prorogation, le temps donc de trouver d'autres personnes pour les remplacer. C'est là où les autres disent niet, non, puisque nous avons déjà pris la décision, il faudrait qu'ils partent. Lui aussi les répond, puisque nous n'avons pas déjà des gens pour les remplacer, on fait quoi? Donc c'est en réalité, c'est pourquoi lui dit, il est en train donc de minimiser en disant qu'en réalité ce n'est pas un problème, puisque au niveau donc de la fédération, ils se comprennent juste pour la campagne qui est même lancée il y a quelques mois, qu'en réalité, ce n'est pas un problème, mais qui l'est remplacé, c'est là où le bas blesse, donc lui veut qu'il joue la prolongation. Donc c'est là où s'accroche véritablement entre les personnes. Il faudrait qu'il... Normalement, s'il y a une décision qui est hâtée, il faudrait quand même qu'on puisse l'exécuter. Mm-hmm. Ça, c'est ça... Dans toutes ces
sociétés. Et surtout, avant même de proposer
l'affectation
des agents,
il faudrait également lancer
produire un justificatif.
Justement, et profiter donc pour lancer un appel à candidature pour les remplacer. L'une est indispensable à un poste. C'est vrai. Maintenant, lui aussi dit, Benassi il part, encore qu'on a lancé la campagne, on fait quoi? Voyez-vous? Et donc, il dit, il faudrait qu'il joue un peu la prolongation, le temps de lancer la campagne. On a d'autres éléments et on les remplace. Et il y a certaines qui disent non, comme on a pris la décision, il faudrait qu'ils partent. C'est là où ça a choqué.
Il y a une désorganisation. Il y a une désorganisation. Et je pense que le PCA devrait quand même avoir. Je ne sais pas si c'est le directeur. Il doit avoir.
Le PCA.
Le PCA, il doit avoir la présence de l'honnêteté de dire qu'il y a un problème. Parce que quand c'est comme ça, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Il est en train de prévoir 90 000 tonnes. L'année prochaine. Et quand vous n'êtes pas organisé en votre sein pour savoir comment déployer les gens pour pouvoir agir sur le terrain pour qu'on puisse atteindre l'objectif fixé, je pense qu'il y a un problème. Donc, je dis que le PCA doit revoir comment il doit fonctionner afin que l'espoir qu'il a eu à susciter en annonçant 93 000 tonnes l'année prochaine ou bien cette campagne pour que il puisse atteindre cet espoir. Et au-delà de tout, je dis, il faut que le ministère de l'Agriculture s'appesantisse sur le problème pour nous dire qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Pourquoi nous évoluons en dégringolant? C'est très important. Nous avons besoin de ces informations pour pouvoir travailler, pour savoir ce qui se passe.
Le ministère de l'Agriculture va réagir sur le coton. Lequel ministère nous avons tellement sollicité sur la filière soja et ni l'agriculture, encore moins le commerce. Personne ne veut se prêter au jeu, ne serait-ce que donner soja. Des explications à l'opinion par les médias.
La filière soja, c'est encore un gros problème là également à ce niveau. C'est encore un gros problème à ce niveau. Donc, il faudrait véritablement que
il nous reste
les deux ministères.
Si on ouvre le soja, on est ici.
Justement.
Oui, c'est pour revenir par rapport à les chiffres que Liberté a donnés tout à l'heure. Vous avez vu que depuis que l'État togolais détenait les 100%
de la société,
la production était meilleure.
Oui.
Et lorsqu'on a privatisé, vous avez vu la dégringolade que nous observons. Je me pose la question de savoir, est-ce que les privatisations là ont bien fait beaucoup de choses au Togo? Parce que dans ces privatisations, on a évoqué tout à l'heure, le licenciement de certains agents.
48
agents. Et à côté, notre production cotonnière de Grogol, est-ce que c'est les paysans qui ne font plus la culture du coton ou bien comment les choses se passent? Donc, il faudrait que l'État puisse revoir bien, le ministère de l'Agriculture nous explique réellement ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas partir de 2018 d'un chiffre et dégringoler.
Il doit avoir un problème, absolument.
Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que même quand on revient au président de la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton, M. Koussoué Kouroufei, qui ambitionne de passer à 93 000 tonnes l'année prochaine, hein, alors il dit que pour atteindre 93 500 tonnes l'année prochaine, on va emblaver une superficie de 110 000 hectares, soit un rendement de 850 kilos à l'hectare. Oui. 850 kilos à l'hectare. Il y a problème?
Nous le disons tout à l'heure et au début de notre émission. Ce n'est pas un crime de reconnaître qu'il y a problème. Parce que le danger, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a problème. Et aujourd'hui, par rapport aux chiffres donnés par le confrère, ce que même un aveugle, même un sourd, peut se dire qu'il y a problème.
Non, il faut,
Maintenant, il faudrait qu'il se dise qu'il y a problème. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on puisse nous expliquer le problème qu'il y a. Aujourd'hui, peut-être ça ne provient pas du ministère, peut-être ça provient des producteurs, peut-être ça provient de l'organisation, comme on l'a dit. Donc, nous avons besoin, d'où la nécessité de communiquer. C'est très important.
Et quand nous sollicitons des informations, c'est que ça. Le ministère nous prête une personne ressource pour nous donner sa version. Et après, nous pouvons continuer avec nos commentaires.
Le nœud, la solution aujourd'hui, c'est de promouvoir des capitaines d'industrie au Togo. Il y a, je vous dis, dans ce pays, il y a tellement de compétences qui vont quand même rehausser la barre de nos sociétés. Mais le fait qu'on va chercher des étrangers, excusez-moi, je n'ai rien contre les étrangers. Le fait qu'on va chercher des étrangers, on les confie des sociétés et après leur départ, c'est un désastre, un chaos total. Je crois qu'à un moment donné, il faut changer de paradigme. Dans ce pays, nous avons changé CET en Togo Électricité.
On a vu les résultats.
Après, c'est qu'on est allé à un procès, on a perdu, on a payé.
On continue de payer.
Dans ce pays, nous avons changé, nous avons mis des étrangers au niveau donc de l'hôtel Sarakawa.
Tous nos hôtels.
Tous nos hôtels, ils sont partis. Ils sont allés au procès, on a encore payé. L'hôtel de février, tout ça, vous amenez des étrangers, ça ne marche pas.
Entre-temps, on avait des formules ici. On a dû reprendre notre OTP maintenant à
aujourd'hui. Et après, on a trouvé des Tunisiens, on a mis IFG. Entre-temps, ça n'a pas marché. Ils sont partis. On a tellement fait avec les étrangers, ça ne marche pas.
On a privatisé nos télécoms et on en est.
Après, bon, récemment, je crois que la route au Lomé, Palimé aussi, on a confié ça.
Ouais, on a confié
ça. À des sociétés qui vont gérer. Même nos routes, on va chercher des étrangers pour venir exploiter nos routes. Mais il y a un souci.
C'est désolant.
Et surtout, on ne nous dit jamais pourquoi on envisage ces solutions. Et quand ça n'a pas marché, on ne revient pas.
Il n'y a pas de bilan. On ne nous dit rien.
Parce que quand Olamé est venu, nous avons une production supérieure. On nous dit que Olamé est venu pour relancer la production cotonnière.
Et voilà.
Voilà la relance.
La relance,
c'est relancer la
scène de descendre. Même presque le conseil des ministres est privatisé. On prend des blancs qui viennent évaluer nos ministres. Donc c'est présent. Là où je suis d'accord avec Sylvestre, ce qu'il a dit quelque chose de très important. Il y a des compétences au Togo. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétences, mais donnons-leur l'occasion de pouvoir exprimer cette compétence. Je crois que c'est très important.
Merci mais beaucoup.
Les faits sont là pour nous prouver.
Merci. Avec la SFLP. Il nous reste juste 2-3 minutes. Juste faire la revue de presse avec le Togo qui a offert son cadre aux parties prenantes de la crise au Darfour. C'est pour que les parties prenantes mènent des consultations. Précision utile que Robert Doucet a tenu à apporter la dernière fois. Revue de presse avec Togo Matin qui titre « Diplomatie togolaise, l'histoire continue ». La Lanterne, lui, écrit « Guerre au Soudan, plutôt crise au Darfour ». Le Togo entre dans l'arène de la facilitation, plutôt facilitation des consultations pour être voilà, exact.
C'est ça.
La Gazelle Info qui écrit lui aussi « Résolution de la crise soudanaise, le Togo offre un cadre au dialogue ». Un cadre de dialogue, pardon, je reprends. Le Togo offre un cadre de dialogue aux protagonistes. Et le messager parle lui aussi de la diplomatie togolaise à l'œuvre. Le contenu des résolutions de la réunion consultative de Lomé, titre similaire de Le Mania Libéré, les grandes décisions issues des consultations de Lomé. Juste pour équilibrer, avant vos commentaires en quelques minutes, Liberté qui s'intéresse au sujet à sa façon. Liberté à la page 3 qui écrit sans détour, Togo, quand le régime se cache derrière un masque de paix. Et pour Liberté, incapable de trouver une solution pérenne à la sempiternelle crise politique que traverse le Togo, le régime de Faure Gnassingbé se targue d'avoir fait de Lomé la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Et pour comme un grain de sel, comme un grain de sel ou de sucre, Liberté se demande si en facilitant les consultations sur le Darfour, si Faure Gnassingbé lorgnerait sur le prix Nobel de la paix. Une minute de commentaire à chacun, Bourema.
Non, moi je pense que on dit souvent que lorsque la case de ton voisin brûle, il faut quand même l'aider à l'éteindre.
Sinon,
un jour ou l'autre, peut-être ça serait ton tour. Et puis n'oublions pas que nous sommes en Afrique et en tant que en Afrique, je pense qu'il faut quand même offrir les bons offices à une personne ou bien à un pays qui est en situation. C'est toujours important. N'oubliez pas que le Togo aussi avait eu, de par le passé, à bénéficier de ces bons offices-là, de par certains pays. Mm-hmm. Vous vous rappelez Ouaga 1, Ouaga 2, autres. Mm-hmm. On était allé chercher une paix dans notre pays. On était allé concilier les points de vue des acteurs politiques. Moi, je pense que c'est toujours très important de le faire, et aujourd'hui on estime que si notre pays également est dans une telle situation, on ne le souhaite pas. Mm-hmm. Ben, il faudrait quand même que d'autres dirigeants puissent intervenir.
En 2017-2018, la CEDEAO est venue à notre chevet avec des résultats quand même mitigés. Abba Sissaka ?
Oui, je pense que peut-être le Togo est dans sa logique de consultation, bien d'accueillir certains protagonistes. Depuis le temps de feu, il y a des mois, on a vu des protagonistes des crises graves qui sont venus ici, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée-Bissau, les gens
on
sont
venus. On ne peut pas citer, la liste est longue.
La liste est longue, donc c'est dans cette logique, on est là. Si on peut prêter notre sol pour que les gens se consultent et puissent trouver des solutions dans leur pays, mm-hmm. c'est une bonne chose. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on est en train de chasser quoi que ce soit, mais si nous avons la possibilité de donner notre cadre pour que les gens viennent. Parce que quand ils sont venus hier, la dernière fois, les deux jours qu'ils ont fait, au moins, ils ont pu trouver quelques solutions mm-hmm. par rapport à la crise alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un couloir alimentaire pour que oui. les populations,
l'aide humanitaire
puissent arriver aux réfugiés. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Mm-hmm. Si on ne discute pas de ça ici, est-ce que ça pourrait avoir lieu?
Autrement
dit, on a permis aux discussions aussi de mm-hmm. continuer en Arabie Saoudite, oui. les discussions qui sont ouvertes au niveau de de l'Arabie Saoudite par les États-Unis. Mm-hmm. Donc que ça puisse continuer ainsi. Encore que on parle aussi du retour du Sultan qui a fui pour aller au Tchad.
En exil au Tchad.
Oui, donc tout ça, là, si on n'offre pas le cadre.
Merci. Kwaku Sylvestre.
Non, c'est l'histoire d'un hémiplégique qui apprend au valide à monter un arbre, c'est tout.
S'il te plaît,
c'est l'histoire d'un hémiplégique
oui.
qui apprend aux hommes valides à grimper un arbre.
Ça dit
que c'est un perclus comme le Togo qui se propose. Non, écoutez,
non, il faut pas blaguer.
Non, écoutez,
le Togo n'est pas
perclus. Non, c'est juste.
Non, le Togo n'est pas
quand vous parlez, je me suis tué. Donc, laissez-moi
terminer.
En réalité, le régime togolais veut juste une certaine assise géopolitique, c'est tout. Le régime veut une certaine assise géopolitique, donc en allant ici et là pour médiation au Tchad, médiation au Mali, médiation
par
ici.
Merci beaucoup, il est
ici. Ici, nous avons tellement de problèmes, des tonnes de problèmes.
Nous suspendons nos
problèmes, ne sont pas
comme ce que là-bas adresse un clin d'œil à nos partenaires et nous renouons avec les auditeurs.
93.5. Canal FM.
Nous avons discuté d'un certain nombre de sujets, la parution de santé et éducation, ce qui se passe entre l'INAM et ses partenaires, et puis l'actualité ici au pays, la crise dans le coton, ces drames que nous pouvons éviter sur nos routes, et justement cette information que je tiens à rappeler, pour ce qui est des tricycles, vous rappelez qu'il y a quelque temps, le ministre de la Sécurité, Yark, avait tapé déjà sur la table et pris des dispositions, à savoir les passagers qu'on surprend à bord d'un tricycle sont passibles de 3 mois de fourrière. C'est-à-dire, si on prend un tricycle qui prend bagages et passagers, le tricycle est en fourrière de 3 mois avec des amendes conséquentes. Mais la mesure que le ministre a prise, qu'est-ce que ces agents sur le terrain font. La parole est à vous maintenant. Premier auditeur, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Sylvain Agbayi.
Oui, nous écoutons. Se limite aux annonces.
Oui.
Et oui. Les réactions sont tardives.
Mm-hmm.
Oui. Tout simplement, monsieur Sass, surtout dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, on a la phobie de dire ça ne va pas. On démissionne. Au Ghana, l'autre fois, la dame a démissionné parce que ça n'a pas marché.
Quelle dame?
Il y a un scandale financier. Elle a démissionné. Il ne suffit seulement pas qu'il a démissionné.
Elle a démissionné ou bien on l'a arrêté?
Non, elle a démissionné bien avant l'arrestation.
Ok.
Oui. Ici, surtout dans les pays africains francophones. C'est ça, je rejette dans Madame aussi qui disait souvent, il faut attendre.
Mm-hmm.
Parce qu'on ne compare pas une seule chose. Chaque 5 ans, on compare les mêmes choses. Alors que c'est deux choses qu'on compare. On nous a appris à l'école, X et Y. On ne compare pas Y et Y.
Mais il faut attendre. On peut comparer Y hier et Y aujourd'hui.
Non, Y et Y ne se comparent pas.
Merci beaucoup, Sylvain.
On compare ça et Sylvain.
Merci, okay, merci, Sylvain. D'autres auditeurs qui attendent en ligne. Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Allô.
Oui, c'est Canal FM.
Oui, vous y êtes.
C'est pas seulement.
Oui, c'est monsieur.
S'il vous plaît, je n'ai pas la radio officielle.
Ah, là, ça va être difficile si vous n'avez pas le retour.
C'est Arigba.
Arigba.
Oui.
Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
Allô?
Vous nous appelez d'où?
J'appelle de Gwezongo.
À Gwezongo.
Oui.
Ok, nous écoutons, monsieur Arigba. Allô, monsieur Arigba?
Oui, allô?
Oui, allez-y, nous vous écoutons.
Bonjour. C'est concernant l'affaire du coton.
Oui.
Les autorités en face à l'arrivée, on n'est plus en 1990. Ce qu'ils ont fait avec nos parents là. Aucun enfant aujourd'hui n'est pas allé souffrir en bourse pour leur nourrir. Ils vont prendre l'argent à les mettre dans leur paradis fiscaux. Aujourd'hui, ils disent que les gens n'ont qu'à aller cultiver le coton. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Je connais à combien on achète le kilo de boutique à sous. Mais renseignez-vous combien ils achètent le kilo ici. Et c'est quel traitement qu'ils donnent aux agriculteurs qui produisent le coton.
Merci. La qualité de la communication n'est pas toujours très bonne, mais on a compris l'essentiel. C'est le traitement qui est fait aux producteurs de coton qui n'incite pas à cette filière. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, allô, Sainte, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Comment vous nous écoutez?
C'est pour rebondir sur la filière coton.
Oui, c'est monsieur.
Vous m'excusez beaucoup. Je voudrais rebondir sur les trois choses concernant l'agriculture, l'environnement et la santé.
Oui.
Bien qu'on n'a pas discuté ces choses-là aujourd'hui.
Ok, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Vous savez, les paysans, ça ne s'arrête pas seulement dans les coopératives ni dans les groupements. Et pour que le Togo aille de l'avant, je pense que les 90% de la population togolaise sont des paysans. Et il va falloir que l'État met les choses à la disposition de ces agriculteurs afin qu'ils puissent bien faire leur travail. Mais néanmoins, ils laissent ces paysans-là et ils s'occupent de certains groupements, des coopératives qu'eux-mêmes ils ont à former.
Mm-hmm.
Et ça fait que quand ils vont dans les fermes, ils ne voient rien voir comme de concret.
Mm-hmm.
Bien qu'on nous parle dans les médias, il y a ceci, il y a ceci, moi je ne vois rien de concret.
Alors,
moi, j'ai mis sur moi, j'ai créé une association que j'ai ciblé les régions, j'ai pris la région maritime, région des plateaux, j'ai ciblé ces régions auprès des paysans, j'ai parlé avec ces paysans. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent.
Mm-hmm.
Ce n'est pas nécessairement un consort de diplômé, ingénieur, agronome, quoi, qui veut dire que on peut mettre celui-là au poste du ministère pour qu'il puisse travailler.
On va aller rapidement.
Il y a la différence entre la pratique et la théorie.
Oui, là, on l'a écouté. Maintenant, votre deuxième préoccupation.
Et puis, pour ce qui concerne l'environnement, c'est toujours dans le domaine de l'agriculture. Moi, j'ai voulu à ce qu'on réponde nos portraits et autres. Je suis parti chez les paysans, je leur ai demandé, j'ai même fait les plans pour les distribuer. Ils m'ont dit, tu ne peux pas aller le banc se creuser dans le champ et travailler. Et qu'on ne met rien à leur disposition. Comment tu veux prendre les plans là pour mettre en place et pour pouvoir les entretenir jusqu'à ce que ça ne grandisse?
Là, vous parlez de reboisement, ça?
Je parle de reboisement.
Mm-hmm.
Bon, alors que c'est des ministères clés qui sont censés à accompagner ces gens-là à aller de l'avant.
Maintenant, votre sujet numéro 3?
Et puis, concernant la santé.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, on nous dit que l'État est en train de faire des efforts au niveau de nos hôpitaux, voire nos CMS. Mais je vois que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Les patients souffrent de certaines choses. Le samedi passé, je viens de perdre fraîchement un fer comme ça parce qu'il y a le manque de choses de sain. Vous voyez tout ça là? Je ne sais pas nous avancer. Nous ne sommes pas des politiciens.
Alors dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dialoguer? Votre parent, vous l'avez perdu dans quelle région, dans quelle ville?
C'est toujours à donner au siège du coin.
Pour problème de quoi?
Il a fait l'hémorragie interne. Vous voyez cela?
Et vous estimez qu'il n'a pas bénéficié des soins appropriés?
Oui, bien sûr.
Okay. Parce que dans un toutes nos condoléances. Nous comprenons vos sentiments, vos émotions. Nous compatissons à toutes vos douleurs. S'il vous plaît, ne faites pas que votre tension monte davantage. Nous avons compris l'essentiel. Et si nous vous écoutons, c'est que au sommet de l'État aussi également, des oreilles appropriées vous écoutent. Merci au l'auditeur suivant. Bonjour. Allô.
Bonjour.
Oui.
Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoué.
Benoît Dagoué.
Oui. Ok. Moi, je voulais rebondir sur ou bien parler de votre dernier sujet concernant le sommet sur la crise, la guerre au Soudan.
Oui, enfin, le Togo a offert son cadre pour les consultations entre les parties prenantes à la crise au Darfour.
Grand frère. Si je n'aime pas la carte de l'Afrique en tête, mais je sais que quand on quitte le Soudan, ça passe par le Cameroun, le Nigeria, le Bénin et on arrive au Togo. Qui paie les, qui a payé les déplacements de cette personne? On va nous dire que certains pays que je viens de citer n'ont pas la capacité, n'ont pas l'intelligence, n'ont pas le leadership pour organiser un sommet. Nous qui sommes au Togo, nous avions le pied dans l'eau. On souffre. Nous sommes à 8 millions d'habitants. Il n'y a qu'un seul scanner que l'État même n'est pas capable d'acheter. On a organisé un sommet. Bonne journée.
Merci beaucoup, Benoît Dagoué. Le suivant, bonjour.
Ouais, ça, c'est bonjour. C'est le chef de l'Église. Voilà. Bon, ça, vous savez, je ne suis pas un évangéliste d'hypocrisie. Parce que quand il y a une vérité, il faut la dire. Vous voyez, et toutes nos alertes que nous posons sur la terre, il y a un retour. Vous voyez, aujourd'hui, je suis ministre. C'est un ministère aussi pour moi que Dieu m'a donné. Je suis président, c'est Dieu qui a décidé que je sois président. Bon, ce que je voudrais dire, tout à l'heure, vous avez parlé des bons sujets où moi je m'intéresse au filet du coton. En tout cas, je vous avais parlé de l'opaque dans ce pays où ils ont dissimé, l'opaque n'avait pas de problème. Ou même le directeur que moi je connais bien, quand on avait cassé l'opaque, l'opaque avait un bénéfice de 1,6 milliard. Et ils ont créé ICAT. ICAT est aussi un parti comme ça. Vous voyez. Et selon les discussions que vous êtes en train de faire sur le plateau, vous avez dit, vous savez que, où est le problème? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? C'est un manque de volonté. Je voudrais encore le réitérer. C'est un manque de volonté. Les 8 millions d'habitants que nous sommes, si ça pouvait, ça peut marcher au Bénin. Si ça peut marcher dans le pays, ça peut marcher au Togo. Si nous passons les gens, ils ne veulent pas que ça soit bien. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Ça, dis-moi. Et quelle est cette région qu'on peut dire que c'est mieux, bon, même si on voit vos gants, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est partout. Donc je voudrais dire ici que je ne dis pas que nos dirigeants ne travaillent pas. Ils font des efforts, mais ils devaient quand même le de plus. Vous voyez. Donc vraiment que Dieu nous aide hein, pour que nous puissions sortir. Nous allons accompagner par la prière, mais avec la prière aussi, il faut qu'on fasse de bonnes choses aussi.
Merci beaucoup. Nous avons le temps encore de recevoir deux auditeurs. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Oui, c'est Papa Dinet depuis Amoutivé.
Pardon?
C'est Papa Dinet depuis Amoutivé.
Eh bien, nous vous écoutons.
Moi, je voudrais intervenir surtout pour les bailleuses de rue, là. Malgré leur maigre salaire, ça ne tombe pas tous les mois. Parfois, 3 mois, 4 mois, même 6 mois après. Donc, l'État n'a qu'à voir. L'état de ces balayeuses de rue. Merci. Bonne journée.
Bah, avant l'état directement, c'est d'abord les communes. Il faut situer quand même les responsabilités. Le balayage des rues, c'est l'une des premières tâches des communes avant de remonter plus loin. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon commandant. Madame.
Ah, Patrick. Nous écoutons.
Merci. Dans un premier temps, je voudrais revenir un peu sur. L'initiative de l'État en faisant le sport le dernier samedi là. Bon, une chose est d'instaurer ce sport-là. Mais là où moi je vois qu'il y a un peu de problème, combien de quartiers disposent d'un complexe sportif? C'est ça, le sport ne se fait pas dans la rue. C'est vrai, c'est bien développé. Mais il doit avoir au moins une structure qui peut quand même accueillir ces sportifs-là. Parce que ça constitue un danger. Quand vous voyez les samedis, vous voyez les gens sur nos routes qui bloquent, bon, une partie qui est bloquée, soi-disant, bon, ils font du sport, je trouve ça un peu chose quoi. Si au moins, il y a un petit complexe dans chaque quartier.
Mais Patrick, oui. Entre nous, nous n'avons pas de complexe sportif, mais nous avons parlé des bienfaits que nous allons tirer du sport. Alors on fait quoi en attendant d'avoir des complexes?
Là, je préfère faire mon sport à la maison.
Très bien. Au moins, vous faites ça chez vous à la maison.
Ça, tu me connais bien, moi je fais le sport, tu me connais bien.
Très bien.
Bon, ça,
okay. On peut faire le sport à la maison, ou bien dans une école à côté, ou bien nous qui sommes en banlieue, avec nos rues qui ne sont pas encore trop fréquentées, on peut encore le faire en attendant de construire les complexes dignes des Jeux Olympiques.
Ok, pour finir là,
oui.
J'aimerais aussi exhorter nos concitoyens, parce que, vous savez, moi je trouve positif cette médiation que notre pays est en train...
Nous facilitons juste les consultations.
Oui, nous facilitons. Mm-hmm. Voilà. Et pour aboutir à un dénouement des problèmes. Mm-hmm. C'est bien. Moi, je ne vois pas pourquoi les uns et les autres s'injurent contre cette consultation. Parce que, mes amis, c'est parce qu'il y a un conflit. En faisant cette consultation, je ne pense pas que l'État togolais est en train de débourser des milliards et des milliards pour ce pays. Mais, vous savez, la dernière fois, ce qui était organisé en Côte d'Ivoire, il y avait Asafo, l'artiste ivoirien là. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? En invitant notre chanteur Santrinous là. Que le pourquoi ils l'ont invité, c'est parce que le Togo s'est impliqué dans la résolution du problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et il était l'invité d'honneur. Mais c'est un plus pour le Togo. Au moins, quand je vais sortir, je crois que l'Ivoirien, il va dire, ah, c'est grâce à vous, cet père revient en Côte d'Ivoire, tout ça. Là. Bon, je trouve ça positif, quoi.
Merci et beaucoup, Patrick.
Que les gens, faut pas qu'ils aient...
Voilà, Patrick, le club de la presse, en fait, hein, nous présentons les faits, hein, et pour que chacun des auditeurs, chacun s'en fasse sa propre opinion. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont pu entrer en ligne. Toutes nos excuses pour ceux qui ont tenté, mais que la technologie n'a pas pu permettre qu'ils nous enrichissent. Bourrema Tchabouré, une minute.
Non, c'est pour dire tous les sujets que nous avons eu à aborder, ce sont des sujets d'intérêt. Et ça a un intérêt, c'est pourquoi les auditeurs également se sont intéressés, particulièrement au niveau du secteur du coton. Je crois que c'est ça qui est plus inquiétant, parce que au vu des chiffres, c'est ça. Et je l'ai dit tantôt, il faut reconnaître qu'il y a un problème, et je crois que le danger, c'est de refuser de reconnaître qu'il y a un problème. Mm-hmm. Maintenant, aujourd'hui, à travers ces chiffres que le confrère Yahyo a donné, nous attendons que des éclaircissements soient donnés. Il y a un auditeur qui a dit quelque chose de très intéressant. Ça dit que la manière dont on les exploite, la manière dont on traite
qui est fait aux producteurs, c'est ce qui fait que dans les champs.
Justement, c'est ce qui fait que les producteurs ont fui. Donc déjà, ça nous donne une idée de ce qu'il en est exactement. Donc aujourd'hui, on attend que l'État et particulièrement le ministère puissent réagir pour quand même prendre ces problèmes à bras le corps et faire en sorte que nous puissions remonter. Maintenant, mon carton.
Oui.
Mon carton, il est vert. Mmh, il est vert. Je m'adresse à tous les fils corps habillés qui sont de l'autre côté de la frontière en train de se battre pour qu'on ait la paix dans notre pays. Il faut toujours avoir une pensée positive pour ces personnes et également pour toute la population qui sont actuellement dans cette situation.
Merci. Coucou Sylvestre Béni.
Non, je reprends également par là une pensée pour les forces de l'ordre, nos forces de l'ordre qui sont souvent sur différents théâtres, que ce soit à l'intérieur, dans le septentrion et donc à l'extérieur du pays. Courage à eux. Je vais encore le dire, peut-être que c'est une redite, mais la route Lomé à Yidogomi, de grâce, il faudrait quand même qu'on trouve une solution d'éclairage et surtout les feux tricolores. On a fait une nouvelle route là au niveau, les feux tricolores qui sont au niveau donc de Kassamblaka, c'est comme s'ils sont condamnés à ne plus s'allumer. Et là, ça suit jusqu'au niveau donc de Zangara et au-delà. Donc il faudrait véritablement qu'on trouve une solution à cela. Et aussi à nos compatriotes qui roulent là, comme si vous prenez la voie là, qui roulent comme si, c'est-à-dire que c'est la fin du monde, il faudrait au moins aller faire la dernière prière, quoi. Non, de grâce.
Nous avons encore le temps.
Nous avons encore
et le temps. Et ce n'est pas un circuit de Formule 1. De
Formule 1. Hein? Ce n'est pas, comment vous l'appelez, Hamilton et Verstappen qui sont là, quoi. Non, de grâce.
Merci. Voilà. Abbas Issaka?
Non, pas grand-chose à ajouter. Je dis que par rapport à tout ce que nous avons dit, est-ce que on ne pourrait pas revoir le côté coton? Parce que les producteurs eux-mêmes, c'est qu'ils sont la vraie cible. On leur a dit, le coton donne. Le coton va faire beaucoup de choses, vous allez manger. Et les gens quittaient même la culture, que le maïs et autres, pour ça donne. Culture vivrière pour aller à la culture de rente, que sont surtout le coton. Aujourd'hui, c'est ce coton-là, on est en train de négliger ce côté-là. Je ne sais pas si c'est, je l'ai dit tantôt, si c'est la, comment dire ça, la privatisation qui a amené tout ça. Il faudrait revoir ce côté, organiser les producteurs du coton pour que on puisse remonter la pente. Ouais, sinon, on ne peut pas aller. Bon, le carton, oui. C'est un carton vert par rapport à ceux-là qui font la promotion des artisans togolais. J'ai vu que le ministre de la Culture a lancé le démarrage même de film.
La semaine nationale du film
au Togo. Donc ça, on avait oublié tout ça là. Demain, il y a quelqu'un qui va lancer la nuit des artisans pour récompenser les artisans sur le territoire togolais et même ceux de l'étranger. Donc il faut promouvoir nos artisans ici au Togo.
Valoriser promouvoir le made in Togo.
Donc ça fait qu'ils vont lancer ça demain.
Damele Kokou, Tchanyaji.
Non mais moi j'aimerais rebondir sur l'auditeur qui a parlé de du complexe sportif. Pour, je pense que lui-même il a dit, on peut faire le sport à la maison. Il y a les terrains périphériques, franchement, qui ne sont pas remplis les samedis. Donc, on peut encore les exploiter. Mais l'essentiel du sport, en tout cas, ça se fait en famille. On peut faire du sport dans sa chambre. C'est aussi efficace. Donc, on n'a qu'à commencer par faire quelque chose d'abord, avant que les complexes n'arrivent. Merci. Maintenant, je fais un carton vert d'encouragement à la mairie de Zanguera. Entre-temps, la maire, madame...
quelle cas, maire? M-E, accent grave, R-E ou non, M-A-I-R-E?
Il parle de la
maire. A-I-R-E. M-A-I-R-E. Elle avait circulé dans le quartier pour dire que les ruelles de Zanguera seront en tout cas aplanies parce que sur une distance de 500 mètres, vous allez passer 50 minutes pour atteindre votre domicile.
Comment
donc, donc c'est un carton vert d'encouragement à madame la maire de faire l'effort pour que ces ruelles soient aplanies parce que c'est très difficile de circuler.
Merci. Nous avons beaucoup parlé sport aujourd'hui. L'occasion de rappeler que nous sommes à un an jour pour jour des Jeux Olympiques 2024. Ce sera à Paris. Et puis, je crois, vendredi, c'est les Jeux de la francophonie au Congo démocratique. Le ministère des Sports a reçu nos artistes et nos sportifs qui vont nous représenter à Kinshasa. Nous leur souhaitons bonne chance. Et cette émission arrive à sa fin. Merci à vous, chers confrères, qui vous libérez pour nous au jour le jour. Les techniciens qui nous accompagnent. Aussi et surtout les auditeurs qui nous écoutent et qui co-animent avec nous. Et en attendant le rendez-vous de demain, nous nous invitons à célébrer la vie. C'est un don précieux qui n'a pas d'équivalent.